Vous voulez un festival qui a de la personnalité? Allez à Genève.
Sans transition.
Le Black transition.
Qui s'est tenu du 16 au 25 janvier dernier. Alors c'est un festival formidable. On a eu la chance d'y aller quelques fois, à la fois pour son atmosphère, mais pour ses invités. Cette année, il y avait notamment Wong Bing qui était venu présenter à la folie, Till Madness Do Us Apart, qui va sortir en mars prochain en France, et que nous avons vu. Et Jérémy, notamment, tu l'as vu. Que peux-tu nous dire sur ce à la folie de Wong Bing?
Bien, c'est un documentaire de près de 4 heures. Sur, il reste dans le Yunnan, après 3 heures du Yunnan, et donc il filme, il va en plonger dans un asile psychiatrique. Et c'est assez déroutant. Enfin, c'est un film très déroutant, parce que dans un premier temps, on est un peu dans une position un peu de voyeur. Comme d'habitude, il pose sa caméra sans trop de mise en scène, et on se dit là, on voit les conditions insalubres, on les voit uriner au sol, on les voit cracher par terre. On les voit s'agiter, on les voit. Voilà, c'est assez choquant dans un premier temps. On se dit tenir 4 heures dans ces conditions, ça va être très très difficile. Et peu à peu, bah, on commence un peu à saisir ce que Wong Bing essaye de faire. En fait, on s'aperçoit finalement que la caméra disparaît, que lui disparaît, que ces gens-là qui errent dans les couloirs, qui sont complètement perdus, etc. Et on sent que eux aussi disparaissent, et on sent qu'ils n'existent plus. Personne n'existe dans ce film. En fait, c'est terrifiant. Et ensuite, on comprend. On a de l'empathie pour ces gens-là. On finit par saisir les difficultés. C'est un film très émouvant. Ça finit par être très émouvant, alors qu'au début on a vraiment du dégoût, et on se dit pourquoi il a fait ça, pourquoi il a été aussi loin. Et finalement, on sent qu'il n'y a plus de barrière sociale, on sent qu'il n'y a plus aucune règle, plus rien n'existe. Et ces gens-là se battent, ils finissent par. C'est un combat pour garder leur humanité, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé brillant et émouvant, c'est ce combat contre l'humanité. Pour garder leur humanité, excuse-moi. Voilà, c'est super émouvant, c'est super beau, et je conseille à tout le monde vraiment de le voir, parce que c'est vraiment un vrai chef-d'œuvre pour le coup.
Ce qui est très fort, effectivement, il y a cette plongée, je trouve, qui est complètement immersive. Alors il y a ce choc des premières images, effectivement, avec cette intimité qui est créée par la caméra qui suit les personnages tout de suite. Et ce qui est très fort, c'est qu'il va créer des micro-fictions, en fait. Il va présenter un personnage, et juste le nom qui apparaît, et ils disent il est là. Depuis 4 ans, 9 ans. Et à chaque fois, il va créer des petits blocs de fiction au milieu d'un énorme ensemble, donc qui dure près de 4 heures. Et on va suivre un personnage. Et à chaque fois, il va raconter une histoire. C'est pas forcément pourquoi il est là. On finit par le comprendre avec l'histoire qu'il raconte, mais juste une étincelle de fiction, de narration qui va arriver.
Il n'en dit pas grand-chose sur ces gens, et c'est nous qui le découvrons. On le voit, voilà, on voit. C'est des petits détails de leur personnalité, etc. On les voit qu'ils essayent de se toucher, ils essayent de garder un peu une certaine tendresse. Quand je vois, il y a une scène assez déchirante où il y a un homme qui supplie son camarade de le laisser dormir avec lui. Et c'est déchirant, quoi, de voir ça. Et il a juste besoin d'une chaleur humaine, d'une tendresse qui n'existe plus, quoi. Et sinon, c'est brillant, parce que on est... C'est ça, c'est ces micro-histoires, on le découvre au fur et à mesure, sans trop en dire. Et par exemple, l'homme qui a la visite de sa femme régulièrement, et petit à petit, on apprend, etc., ce qu'il en est, sa vie, il y a son fils qui vient après, pourquoi il est là, etc.
Donc, au sein de cet asile, donc, c'est vrai qu'il revient aussi sur des personnages. C'est-à-dire qu'on a on suit un personnage pendant quelques minutes, on passe à un autre personnage et on revient vers un autre personnage. Donc il y a une construction comme ça, narrative, qui est par petites touches.
C'est de l'errance, en fait. C'est de l'errance. Lui aussi erre dans les couloirs, et au hasard d'une rencontre, il revient sur cette personne-là ou sur une autre. Des fois, il y en a un, il va passer 5 minutes sur lui, puis on ne le reverra plus jamais. C'est des trucs comme ça, où c'est cette errance comme ça qui vraiment, c'est passionnant, et en même temps, c'est on est happé par le truc et on est en immersion. C'est fabuleux.
C'est bien.
J'ai pas rajouté grand chose, mais je suis aussi d'accord comme vous. Je partage votre avis. C'est un film très important dans sa filmographie. C'est quand même lui qui a fait l'Ouest des Rails. Enfin voilà, il a fait pas mal de films. J'ai l'impression qu'avec lui, le rapport au cinéma que j'ai, c'est un rapport de durée, de la notion de durée. Et ce qui est très bien avec ce réalisateur, c'est que la durée, le sens de ça, de la durée, explose avec lui. C'est ça qui est très très intéressant. C'est de l'art brut, en fait. Et moi, il y a une séquence qui me plaît particulièrement dans ce film, parce qu'on est là pour parler aussi de... Enfin, c'est quand, à un moment, il suit comme ça vous parliez très justement, vous évoquiez très justement des séquences, des micro-fictions, des choses comme ça. À un moment, il se retrouve avec un père de famille, et puis ce père de famille, je ne sais pas si... C'est ça exactement, mais il marche comme ça, il marche, et lui il le filme, il le suit, puis à un moment il s'arrête, et lui il s'en va, le père de famille. Et là je me dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? C'est que lui il est là avec sa caméra, il a pris la décision de s'arrêter, il n'y a plus ce travelling, et il le suit. Et il arrête de le suivre, il le voit partir au loin. Et c'est ça qui est très beau avec Wong Bing, c'est que, et c'est pour le coup pour moi, et c'est pour ça que très vite je ne me suis pas mis comme une espèce de voyeur, parce que jamais j'aurais eu l'idée un jour d'aller dans cet endroit-là, de les regarder, parce que c'est quand même assez troublant et en même temps fascinant ce qui s'y passe, une espèce de cours au miracle, enfin c'est très très particulier, cours des miracles, pardon. Et Wong Bing, on a l'impression que ce que l'on voit, c'est vraiment ce qu'il filme au présent. C'est ça qui est très très particulier, c'est qu'on a l'impression de le suivre, d'être avec lui, de l'accompagner, et c'est pas qu'il sait pas du tout ce qu'il va comme c'est pas du tout c'est pas qu'il sait pas ce qu'il va filmer, c'est qu'il sait pas comment il va le filmer. Donc pendant plus de 4 heures on est en train d'insister à une espèce de comment on appelle ça, une espèce de working progress. Et c'est ça qui est fascinant. Et là, pour le coup, c'est un film qui doute. Pour le coup, c'est un film qui a une personnalité incroyable. C'est un véritable documentaire qui fait que c'est du cinéma. Et moi, je suis... et encore, pour le coup, de l'avoir vu... c'est important de préciser. Moi, je ne suis pas très anglophone. Je l'ai vu sous-titré en anglais, mais j'ai quand même été transporté très, très vite.
Il n'y a pas besoin de dialogue, finalement.
Il n'y a pas besoin de dialogue.
Et c'est ça qui fait, c'est ça qui fait qu'il est grand aussi.
C'est ça qui est grand.
Puis la séquence où il y a le l'homme qui décide d'un coup en pleine nuit, parce qu'il n'arrive pas à dormir, de faire un footing autour du... Et il le suit en courant tout autour du... Il y a un jeu qui s'instaure entre les deux, et il dit, je vais te rattraper, tu me rattraperas. Et... Ouais, c'est ça.
C'est un homme caméra.
C'est ça qui est fascinant. Il y a aussi une croyance totale en son sujet, parce qu'il va décider effectivement de suivre une personne et de créer une séquence autour de cette personne. Donc quoi qu'il arrive, il va la suivre. Donc on a aussi la présence de Wong Bing qui est perpétuelle, parce que dans cette séquence, on le voit courir, enfin on l'entend,
on l'entend courir,
on voit la caméra qui tremble, puis
l'ombre aussi, on l'entend, on le voit. C'est
et en même temps, il est en immersion complète et il s'efface complètement par rapport à son sujet. Et alors je ne sais pas combien il y a eu d'heures de rush et le travail de montage qu'il a dû fournir, mais finalement on a l'impression que ça marche à chaque fois, c'est-à-dire que dans ce film qui se passe dans quelques mètres carrés dans un asile psychiatrique au fin fond d'une région reculée de la Chine, on trouve finalement tous les genres. Enfin, il y a une histoire d'amour qui se crée, parce qu'on est à l'étage des hommes, en bas il y a les femmes,
c'est quand on les voit tous les deux avec la grille comme ça,
qui essayent de dialoguer, qui se fait ça. Il y a même des éléments de film policier, il y a toute une séance où il y a un personnage qui est menotté et qui va chercher à enlever ses menottes. Et Wong Bing décide de le suivre jusqu'à, effectivement, qu'il enlève ses menottes. Et cette séquence dont tu as parlé, où enfin, au bout de... Alors, ça doit arriver à 2h30 de film, un personnage
sort.
Et il décide de le suivre. Voilà. Et il l'abandonne, effectivement.
Mais là, il disparaît, quoi. C'est ça qui m'avait marqué, je l'avais écrit dans ma critique. C'est que même là, même à ce moment-là, Wong Bing s'efface et il perd, quoi. Même dans le plan... L'homme s'efface, il disparaît carrément du plan en fait d'un coup en pleine nuit, et ça donne c'est saisissant, quoi, l'image est vraiment, même là il n'existe plus, même en sortant il sait plus quoi faire et il n'existe plus.
Mais j'ai lu un article sur ce film aussi où il parle de cette séquence et il a dit, je me souviens plus de celui qui a écrit ça sur le film, il disait à un moment, il parlait de cette séquence, il disait à ce moment là le fait que lui se disparaît et que Wong Bing décide de ne plus le suivre, à ce moment-là, le réel prend le dessus sur le cinéma. Un truc comme ça. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. À ce moment-là, si moi je vois Wong Bing, j'ai pourquoi tu t'es arrêté à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'as voulu t'arrêter à ce moment-là? Tu n'as plus voulu le suivre.
C'est ça.
Et à partir et le fait qu'il y ait cette question-là, que moi je suis impliqué dans ce questionnement-là, je peux pas rejeter le film. Là, je suis obligé de partir avec lui et d'expérimenter le truc. C'est fascinant.
C'est vrai qu'au-delà de, au-delà des genres qu'il explore, il essaie de faire des petites fictions, comme tu dis, explorer plusieurs genres. Il a aussi ce côté, on n'oublie pas le côté politique du film. Et il dit des choses importantes qui méritent d'être énoncées, quoi. Voilà, les conditions mais dégueulasses dans lesquelles ces gens-là vivent, les traitements limite sadiques, la scène justement des menottes où le mec veut pas lui enlever les menottes alors qu'il n'arrive plus à respirer, etc. C'est horrible, quoi. C'est super important, c'est nécessaire.
C'est vrai qu'un autre parti pris, c'est qu'il filme que les patients, en fait. On voit pratiquement jamais les médecins.
Ils sont pas là.
On les voit
de temps en temps. C'est ça.
Et on suit juste, effectivement.
T'as l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes et que le personnel médical est là juste pour leur filer des cachetons et vérifier est-ce que t'as bien ouvert la bouche. Ouvre la bouche et vérifier que tu les as bien avalés, quoi. Donc c'est assez terrifiant.
Moi, j'ai pas vu le film, mais c'est vrai que ce qui est décidément admirable chez Wang Bing, notamment vous écoutant parler de ce dernier film, c'est qu'il a vraiment un infini respect pour ce que vivent ces personnages en dehors du cinéma. C'est très intéressant, déjà dans le précédent, Les Trois Sœurs de Yunnan. Certes, il est omniprésent, certes, on le voit, on sent la caméra accompagner ce quotidien, mais il y a toujours une manière de ne pas vouloir à tout prix faire spectacle, d'une certaine manière, de ce que vivent ces gens, que ce soit les fous, donc... que ce soit les pauvres, ou que soit même son personnage dans... Comment s'appelait la vieille dame à qui il avait consacré un film de 3 heures, j'ai oublié, Feng Ming. Voilà, il la laisse raconter son histoire en se faisant le plus discret possible. Et il y a finalement une vraie autonomie de la vie vécue par ces seuls personnages qui en fait vraiment un documentariste avec ce que l'on peut appeler une morale. Enfin, je sais pas, ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez unique.
Et là, en plus, comme aujourd'hui. C'est des gens qui ont perdu la raison pour la plupart... Ils ont plus la gêne, ils ont plus le... donc en fait la caméra n'existe plus en fait.
C'est ça.
Donc lui n'existe plus. Wang Bing il est comme eux en fait. Il est à leur même niveau parce que il n'existe plus. Tu les vois de temps en temps, ils regardent un peu la caméra, mais ils ont un éclair, tu vois. Mais sinon, Wang Bing, sa caméra n'existe pas, quoi.
Il n'est pas en train de nous dire, regardez, les fous sont comme ça. Ouais,
c'est ça. Non, la folie est plus forte.
Il n'est pas en train de dire, regardez, les fous sont comme ça, et regardez, les gens vont dire que les fous sont comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il n'y a aucun moment quelqu'un qui va se retrouver dans la caméra et qui va dire, voilà, je vais vous expliquer pourquoi les fous sont comme ça. Ou alors en fait, les fous représentent un peu notre société, que nous sommes aussi tous fous, tout ça.
Il y a cette explication effectivement du contexte qui est différée jusqu'à la dernière bobine où il y a une explication.
Voilà, ça c'est bien.
On explique pourquoi.
C'est honnête, ça en fait un truc honnête et pas voyeur.
Il déferle tout ça jusqu'à la fin, donc il y a des éléments qu'on a compris. Et finalement, ça nous arrive encore plus fortement, je trouve, quand on a ces panneaux.
Il faut avoir une telle confiance, une telle assurance dans son cinéma pour faire ce genre de choses, pour terminer ce film.
Bah, il te montre qu'on en a... C'est même accessoire. On n'a pas besoin de ce carton à la fin. On sait très bien on a vu ce qui s'est passé. Et il a réussi à faire passer ça en suivant ces gens. Et c'est juste brillant, quoi. Et justement, c'est édifiant. Quand tu vois ce truc à la fin, tu te dis, ouais, voilà. C'est ce que j'ai vu, quoi. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... C'est vraiment le truc qui t'a livré ça, mais
Ouais, j'ai pas vu le film non plus, mais la façon dont vous le parlez, côté politique aussi, qui est arrivé tout de suite, je pense à un film, je regarde Samir, je pense à Aliénation de Malek Bensmaïl.
Exactement.
Documentaire aussi, dans un asile, et sans parler du film, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me... Des fous dans un asile, c'est un côté très cinégénique.
Ah oui, enfin. Mais carrément. Ouais.
Donc, tu dois quand même t'interroger. Tu parlais de morale, pour le coup. Ouais, là, il faut vraiment te poser la question. Comment je le filme ? Est-ce que je peux filmer n'importe quoi ? De toute façon, ça passera. Tu disais, ils n'ont pas vraiment conscience non plus.
Tu doutes au début, tu te dis... mais après, bon, connaissant l'auteur, tu te dis que ça sera pas comme ça. Mais au début, tu dis comment il va faire, quoi, justement, pour pas rendre ce truc un peu dégueulasse, un peu voyeuriste.
Et du coup, il y a une question qui arrive, parce que Bensmaïl, dans son film Aliénation, je ne sais plus, 2000, mais 2003.
Je crois que c'est 2003. Il faut confirmer. Mais c'est à peu près
Voilà, donc l'asile, microcosme, petite société, au final, qui est une sorte d'Algérie miniature. Comment il sort, Wang Bing, du coup, comment il nous fait ressentir le pays derrière? Comment il y arrive? Parce que là, vous parlez de micro-scène, mais...
Mais je crois... Il s'intéresse avant tout comment t'expliquer, mais c'est à partir des personnes, quoi, c'est à partir des gens que tu vois, et il y a, je sais pas comment expliquer, Victor, si
ça
tu
se construit. C'est un peu particulier, ça. Aliénation, Malek Bensmaïl, ok, mais je sais pas si tu te souviens, Aliénation s'inscrit aussi dans un, enfin, on parle beaucoup de la guerre civile algérienne dans les années 60, dans les années 90, pardon. Donc il y a une espèce de base un peu mortuaire sur laquelle on se repose bizarrement en disant voilà, ouais. Mais c'est ça.
Ouais.
Le film de. Enfin,
je crois pas que ce soit sa volonté finalement de faire un microcosme et de
voilà.
Dire c'est
non,
la Chine.
Je pense
et...
pas. Hein. Je pense
l'important,
pas que ça soit
c'est
ça.
Que les, en fait, les individus qui filment sont avant le discours, qui portent
exactement
dans,
c'est ça.
Dans la folie. Et à partir effectivement de la mosaïque qui crée, là il y a un discours politique qui se crée sur le pays. Mais finalement, en premier lieu, ils filment des individus, des gens qui sont là. On comprend pourquoi il se trouve là.
C'est un petit mot, genre une petite phrase où quand un personnage va dire ici, voilà, ma femme a pas assez d'argent pour payer les frais de l'asile, etc. C'est par petites touches comme ça, tu sens la misère, tu vois les gens, la femme du mari qui a du mal à payer les dettes, qui lui explique qu'elle doit de l'argent, etc. Que la vie est dure sans lui, etc. C'est par petites touches, c'est les gens avant, quoi. Et je pense pas qu'ils veulent symboliser le pays dans cet asile. Ils s'intéressent avant tout à ces gens-là qui ont.
Ils font le travail à sa place. De toute façon, s'ils arrivent à les filmer, de toute façon, ils arriveront à donner ce qu'ils sont. Et c'est vrai que du coup, Bensmaïl, c'est le reproche qu'on pourrait lui faire. Enfin. S'il y a un reproche à faire d'amener justement la vol, parce que le documentaire sortait jamais de l'asile de Bensmaïl, sauf au départ en fait.
D'accord.
Il y avait une petite histoire de 5 minutes sur la ville, etc.
Alors que là,
donc,
vraiment,
on est tout de suite un petit peu dirigé vers.
C'est ça qui est brillant, c'est qu'en fait, il a même pas besoin, en fait, il a même pas besoin d'insister, de manipuler ou de je sais pas quoi, mais il montre juste ces gens, il filme un visage, il filme un truc et tu sais
mais
ce qui se passe, quoi.
De l'asile n'existe pas, en fait, pendant très longtemps. Pendant 2h30, en fait, il n'y a rien d'extérieur à cet asile et on est emprisonné avec les personnages. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'une... À certains moments, je me suis demandé s'il y avait une complicité, effectivement. Enfin, comment il arrivait à avoir cette intimité. Et il y a un jeu avec les portes qui se crée, c'est-à-dire que parfois, il y a plusieurs salles.
Il y a une scène où il ferme la porte, oui.
Sur une cour ouverte, il y a des salles... Et en fait, des personnages rentrent dans des salles, ferme la porte, mais des fois laisse un petit regard.
Et lui ne rentre pas.
Et lui parfois.
Il n'a pas poussé là. Il y a une scène où il ne pousse pas la porte, quoi. Le malade ferme la porte et lui il reste derrière la porte. Tu vois qu'il filme le petit interstice. Il ne rentre pas, quoi.
Combien de réalisateurs l'auraient ouvert cette porte?
Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je trouve brillant, c'est qu'il n'y va pas.
Michael Moore l'aurait ouvert.
Je pense que Michael Moore l'aurait ouvert et il aurait dit quelque chose.
Voilà.
Ouais, il aurait.
Lui, il s'efface complètement, il les laisse, quoi. Il les laisse vivre, il se pose et il sait quand s'arrêter, il sait quand il ne faut pas y aller. Voilà, quand il est dehors et que le bonhomme essaie, tu vois qu'il s'éloigne un peu. Lui, il le sent, quoi. Il le sent qu'il ne faut pas le suivre, quoi. Il faut le laisser aller, Et il le laisse et c'est sublime, quoi.
Donc à la folie de...
C'est admirable, quoi, vraiment, c'est admirable. Un documentaire fait comme ça, c'est admirable.
À la folie de Wong Bing, je pense qu'on en reparlera dans 2 mois, puisqu'il sort le 11 mars. Enfin,
c'est déjà ça va être mon film, mon top 1, ça, je le sens.
Pareil.
Mais vraiment.
Difficile transition avec le nouveau Hong Sang-soo, qui était également présent, projeté au Black Movie, Hill of Freedom. Qui lui nous arrivera en France, mais Sidi, qu'en as-tu pensé?
Hong Sang-soo, c'est un peu la star des podcasts, hein. On en parle très souvent, on lui a accordé pas mal de temps la dernière fois aussi.
Sur le Ghibli et Hong Sang-soo.
Oui, c'est ça, c'est un peu notre marronnier. Et que dire, c'est un film qui n'est pas décevant, c'est-à-dire que c'est un peu en droite ligne de ce qu'il nous a proposé ces derniers temps. C'est très court, hein, ça dure à peine une petite heure. Voilà, c'est l'histoire d'un Japonais qui revient en Corée pour essayer, en tout cas, de retrouver une jeune femme qu'il avait fréquentée quelques années plus tôt. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, il va passer à peu près tout le film, plusieurs jours à l'attendre, notamment dans le fameux Hill of Freedom, qui est le nom du restaurant dans lequel ils avaient l'habitude de se retrouver. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque la personne qui n'est pas là... Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour tuer le temps? Eh ben, on essaie de rencontrer des gens. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à partir de ce vide, de cette absence, eh ben, il va essayer plus ou moins remplir son quotidien à travers la rencontre d'un homme bon vivant, à travers la discussion qu'il va entamer avec la tante de cet homme qui se trouve être la responsable de son hôtel. Ce qui est intéressant en ce moment avec Hong Sang-soo, c'est de se rendre compte que ces histoires se structurent de plus en plus à travers des comment on va dire, un jeu sur le degré de réalité. C'est-à-dire que dans Ewon et les hommes, on n'était jamais totalement certain d'être dans le vécu ou dans le rêve de la jeune femme. Et dans ce film-là, je dois préciser que le film s'ouvre sur la femme, la fameuse femme qu'attend le jeune japonais, qui découvre la longue lettre qu'il lui a consacrée. C'est-à-dire qu'elle récupère la lettre, et c'est à travers la lecture de cette lettre que va progressivement se dessiner le récit de son quotidien sans elle. Et donc voilà, ce film est donc pris par ça, par la projection, une sorte de flashback via le regard de cette jeune femme, voilà. Et donc cette manière de totalement englober une aventure dans la projection, dans l'imaginaire, donne une sensation de flottement. À la fois, c'est un cinéma qui reste toujours très réel, ancré dans la scène, dans le moment même, et en même temps, il y a toujours cette espèce de possibilité de revenir un peu sur ses pas, est-ce qu'on avance véritablement ou est-ce que tout ce qu'il nous a montré est un pur produit de l'imaginaire. Je vous en dis pas plus, je crois que je suis le seul à avoir vu le film. Tu l'as vu aussi.
Ouais.
Mais voilà quoi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus en plus clair et de plus en plus pur dans sa manière qui me donne envie de. Je vois la tête d'Elvire là.
J'ai trouvé. Ouais. Alors moi, ce qui m'a vraiment gêné, et c'est peut-être un détail, mais là ça m'a vraiment gêné, c'est l'anglais.
Ah.
Parce que j'ai trouvé que ça manquait vraiment de naturel. J'ai eu l'impression que les acteurs crachaient leur texte. Parce qu'on sent qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais.
Enfin, le personnage principal, on
oui,
sent
non, mais...
quand même qu'il le gère, quoi.
Ouais, bah, moi, dès qu'ils passaient dans leur langue maternelle, tout d'un coup, ils revenaient avec l'air naturel incroyable. Et dès qu'ils repassaient à l'anglais, j'avais l'impression de voir des acteurs qui récitaient un texte. Ça m'a beaucoup gêné.
Mais parce que c'est pas leur langue quotidienne,
oui.
Justement.
Oui, mais vu que c'est 90% du film, j'ai été gênée par ça, en fait.
Parce que moi, si tu m'amènes en Angleterre, je serais
aussi,
très
hein,
nul, je serais pas naturel du tout, tu vois. Donc, ouais.
Mais ça m'a gêné ouais. Dans ce film-là, en fait.
Mais
même si je comprends, ouais. En fait.
Est-ce que ça t'avait gêné dans le film avec Isabelle Huppert qu'il avait fait justement
moi.
Où une partie était en anglais aussi, avec en anglais.
Ouais, mais c'est peut-être parce que ça du. Il y avait.
Peut-être qu'il y avait Isabelle Huppert.
Non, c'est pas ça. C'est que c'était peut-être moins important, en fait.
L'occidental.
Non, en termes de durée du film. Et je peux comprendre en fait quel était l'objectif aussi, mais moi ça m'a refroidi quoi. Mmh. Déjà qu'à la base j'aime pas trop Sang-soo, alors là j'étais bon, moi j'ai compris l'anglais, ils prononcent comme les Français à peu près.
Donc ce problème de langue
tellement lentement que j'ai compris.
Ouais.
Mais ça m'a
ce problème de langue t'as tenu à l'extérieur du film tout du long,
ouais,
tout au long de cette heure, d'accord.
Vraiment. Là où j'ai eu l'impression vraiment de voir un film. Là oui, là j'étais j'avais pas l'impression de voir un bout de vie quoi.
D'accord.
J'étais...
Non, moi je comprends ce que tu veux dire, même si moi vraiment c'est au contraire cette espèce de ce défi de Hong Sang-soo de faire parler effectivement à 80% ces personnages dans une langue qui n'est pas celle qu'il emploie généralement, bah je trouve que ça apporte justement ce sentiment un peu de pas de perdition mais de flottement du personnage principal qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qui doit réussir à combler quelque chose, et je trouve que l'emploi de cette langue avec des personnages dont ce n'est effectivement pas la langue naturelle, parce qu'il y a quand même des petits bouts de coréen, tu les vois parler entre eux et tout ça. Ça donne effectivement ce petit sentiment de transition dans sa propre vie.
J'aurais pu trouver ça intéressant s'il avait joué en fait sur des incompréhensions, mais c'est pas le cas, on a vraiment l'impression que le postulat est qu'ils se comprennent tous quand ils parlent anglais. Et du coup, je me suis dit, oui, bah. Quel est l'intérêt du coup, enfin, il aurait pu y avoir quelque chose. S'il y avait eu des incompréhensions, des quiproquos, mais là non.
Je crois que j'avais eu le même. Enfin, sorry, je parle d'un film, j'ai pas vu, mais j'avais eu le même souci que ça. Night and Day. Mm-hmm. Je crois qu'on avait parlé de ça aussi. Et j'avais eu.
Oui, moi aussi.
C'était pas un problème majeur pour moi pour la compréhension du film, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose. J'avais du mal à l'avaler. Mais c'est assez.
Dans Night and Day, c'est un Coréen qui était à Paris. Exactement.
Voilà, c'est ça aussi.
Il y avait que des Coréens.
Il fréquentait essentiellement des Coréens.
Ouais. La France. Ouais. Il pourrait être absolument n'importe où dans le monde.
Oui, tout à fait. Ça de la même manière.
Ouais, effectivement. Ouais.
Mais enfin, moi, en tout cas, je trouve que le film est vraiment très beau. Enfin, moi, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Et je voulais conclure en disant tout simplement que, vraiment, on en avait déjà parlé, la patte de Hong Sang-soo se fait de plus en plus directe de plus en plus fluide. Je sais pas, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose, peut-être depuis Ewan et les hommes, qui rend ces films.
Ouais, mais alors, il a toujours les mêmes plans, moi j'en peux plus. Ah le zoom. Non, mais... Il me rend malade ce zoom.
Voilà quoi.
J'ai pas vu le film, ouais. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai jeu sur les décors en fait par rapport à cette temporalité là. C'est-à-dire que le côté flashback, où on revoit les décors peut-être avec différents points de vue, non? Ou,
C'est pas toujours très clair en fait au niveau de la temporalité.
Oui, mais c'est ça qui est drôle justement. Ouais. C'est...
Et donc la répétition de plan a vraiment quelque chose d'utile dans bah,
j'ai peur de dévoiler quelque chose de très profond dans le film, en fait. C'est pour ça.
Je mets un point sur...
La fin, tu vois, il y a vraiment ce truc...
Pas de spoiler.
Voilà.
C'est pour ça, attention. C'est un teaser, de toute façon, d'un film dont on va reparler très très longuement lors de sa sortie.
En fait, il est mort comme Bruce Willis, en fait.
Le twist
channel. C'est important de dire que Sidi est viré à vie de ce podcast.
Ouais, merde,
il est un truc important.
Nous allons donc maintenant sortir de l'Asie, ou pas, mais rester au Black Movie avec les conseils de la rédaction. Samir, je crois qu'il y a un film du Black Movie qui sort le 11 février qui t'a particulièrement marqué.
Oui, c'est le dernier film, malheureusement, enfin, vraiment le dernier film d'Alexis Garman, disons, parce qu'il est décédé récemment. Il est difficile d'être un dieu. Et je trouve que c'est un film qu'il faut absolument voir. J'espère qu'on en verra plus tard, dans quelques semaines, le temps que l'ensemble de la rédaction puisse le voir, parce que c'est vraiment un film très très important. Enfin, selon moi, c'était peut-être le premier film important de cette année. Et il faut connaître un petit peu Alexis Garman. C'était un cinéaste donc russe qui a eu beaucoup de démêlés avec l'établissement soviétique. Pratiquement tous ses films ont été plus ou moins censurés. Parfois, les copies de ses films restaient sur les étagères des cinémathèques. C'est quelqu'un qui, très très vite, même si ses parents étaient ancrés dans une espèce de pensée soviétique assez unique, mais c'est quelqu'un qui très très vite s'est démarqué de tout cela, qui a essayé de faire des films sur les problèmes du totalitarisme soviétique, l'antisémitisme, etc., etc. Il y a eu beaucoup de succès avec la censure, qui avait toujours des problèmes à faire ses films, donc qui mettait du temps à faire ses films aussi, entre 5 et 10 ans. D'ailleurs, le dernier, celui-ci, Difficile d'être Dieu, il a mis, je crois, plus de 15 ans, je crois, pour faire ce film.
J'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler, en fait, de ce projet.
Voilà. D'ailleurs, je me souviens très très bien, pendant 3-4 ans, de lire, à chaque fois, je lisais les cahiers du cinéma en janvier 2002. Premier mois de l'année, qui disait nous attendons ce film avec impatience, une année, deux années, trois années, quatre années, c'était incroyable. Et puis un jour, on le voit ce film. Et moi, je suis. C'est pas un film qui parle, c'est un film qui chie en fait. C'est faut faire attention avec ce film-là. Ça remet en cause aussi la réceptivité des spectateurs. On parlait de Marnie, on a parlé du film de Wong Bing, on a parlé maintenant de ce film-là. Ça redéfinit complètement la notion du spectateur. C'est exactement à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout prendre? Il faut prendre toute la durée du film et se dire qu'est-ce que c'est que cette année? C'est un film qui ne montre jamais, c'est un film qui ne démontre jamais, qui montre complètement. C'est des images, des plans à l'état brut, pardon. Et l'histoire est très très simple, mais vraiment tellement simple qu'elle est racontée dès le début. Et pendant plus de 2h30, ensuite, c'est autre chose. C'est un film de science-fiction qui se passe. C'est un film de science-fiction qui se passe.
Qui n'en est pas vraiment.
Dans un récit féodal, enfin médiéval, et dans une autre planète où on est encore au Moyen-Âge, des gens du futur découvrent cette planète. Et dans cette planète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de culture, il n'y a plus de figure artistique, la musique est bannie, on ne voit plus rien en couleur, tout est en noir et blanc, d'ailleurs le film est en noir et blanc. À partir du moment où tu commences à réfléchir, à dire tu n'es plus banni, tu es tué, tu es assassiné. Donc c'est un film qui parle beaucoup à notre société. Alors pourquoi il est difficile d'être un dieu? Parce que Garman à ce moment-là ne se préoccupe pas forcément de est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui régit, pourquoi cette société est devenue telle ainsi alors qu'il y a quelque chose qui serait... Non, en fait ce qui l'intéresse c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est les humains, quoi. C'est ça qui l'intéresse. Et on a l'impression de revenir vraiment à l'origine de quelque chose. Donc c'est un film qui s'ouvre de manière très très, entre parenthèses, merdique, et qui se finit comme tel. C'est un film qui est
un peu scatologique.
C'est un film scatologique où les choses sont montrées de manière très très brute, avec des fulgurances au niveau au niveau de la mise en propos, c'est quelque ça, voilà, on a cette impression, c'est un film monde. Et moi, je pense que le monde est encore aujourd'hui à redécouvrir. Donc, il faut découvrir ou redécouvrir ce film. C'est quelque chose de très, très particulier. C'est un véritable expérience pour le spectateur. Et de quoi parle le film ? Le film, même s'il y a énormément de... Enfin, ça parle beaucoup, ça dialogue beaucoup entre eux, mais c'est pas très important. C'est ce qui est montré. Il y a parfois des digressions narratives, des digressions même au niveau de l'image. Et c'est quelque chose qu'on en ressort. Je suis incapable de te dire, Victor, au jour d'aujourd'hui, de quoi parle le film. Je sais que c'est un film qui... La caméra, elle est posée un moment dans un récit qui se passe dans une espèce d'histoire médiévale. Et tu as des moments où les gens qui sont dans le film, les personnes qui te regardent, ils n'attendent que toi. Et c'est ça qui est très, très fascinant. C'est une véritable expérience. Et je vois Nicolas en train de hocher peut-être. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est
bien. Non, je suis d'accord.
Mais c'est une véritable expérience. Et c'est pour ça que je pense que j'oblige d'avoir tous les membres d'ici. Parce que il faut absolument aller voir ce film. Parce que j'ai besoin de vous entendre parler de ce film. Qui est pour moi une expérience éprouvante, épuisante et en même temps très émouvante. Voilà.
Ce sera fait.
Nicolas.
Bah alors là où je rejoins Samir, c'est que oui, il faut voir le film. Oui, c'est une expérience. Oui, c'est un film comme on en voit rarement, voire jamais. Oui, c'est un film de substance. Oui, c'est un film de fluide. Voilà, c'est il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est la bouillasse dans tous les sens. Les personnages sont sans arrêt rappelés à leur origine, à la terre, quoi, et s'enfoncent dans la boue. Et donc il y a une espèce de langage de fluide qui est très intéressant dans le film et qui fait que je le trouve brillant parce que le concept, le système est brillant. Et là où malheureusement, mais ça c'est moi, comment je vois le cinéma, comment je le ressens, c'est qu'au bout d'une heure, j'ai commencé quand même un peu à me faire chier, sachant que le film dure.
C'est
dans la logique. Mais sachant qu'il dure, je ne sais plus combien, de presque 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie.
C'est
court.
C'est quand même un film qui est très éprouvant à regarder, sachant que ça se passe quand même sur. Enfin, la façon dont sont filmées les scènes sont régies par un concept général qui est presque un reportage en fait à travers ce peuple revenu à l'état du Moyen-Âge entre guillemets, et donc la caméra est dans le plan presque, quoi, c'est-à-dire qu'on la ressent, comme tu disais, il y a des gens qui font coucou à la caméra en passant devant l'objectif. Il y a même un moment
mais c'est pas du Peter Watkins, c'est pas ça, attention, ça n'a rien à voir avec
non Peter parce Watkins. Que ça s'efface, ça revient, c'est vraiment une immersion. Et je trouve ça, c'est très intéressant, mais le problème, c'est qu'au moment, je trouve ça aussi très répétitif. C'est-à-dire que c'est ça de début jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est la caméra qui se balade au milieu, c'est des longs plans séquences, la caméra qui se balade au milieu de ce peuple, de cette merde, de ces fluides. C'est sûr que graphiquement, esthétiquement, il y a quelque chose de très très beau à la fois, de très très... voilà, c'est sale, mais c'est beau, la beauté du sale. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher, au bout d'un moment, de piquer un peu du nez, de trouver ça un peu répétitif, de sortir du film. Et donc, voilà, je suis vraiment mitigé, c'est-à-dire que je trouve ça brillant, mais je ne pourrais sans doute pas le revoir, quoi, parce que c'est tellement éprouvant aussi. C'est pas que ce film-là qui me fait ça, il y a plein d'autres films qui sont adorés par énormément de monde, que je trouve éprouvants.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que en fait, ça n'est pas que ça, c'est aussi. Et ça, c'est vraiment, moi, ça m'intéresse beaucoup quand tu me dis, il y a un moment, ouais, j'arrive plus parce que ça commence à me faire chier. En fait, en voyant ce film, je ne dis pas que je suis resté pendant 2 heures et demie comme ça, statique, en regardant le film, c'est un chef-d'œuvre. Non, il y a des moments, effectivement, tu commences un peu à t'essouffler parce que c'est quand même balèze. Je veux dire, il y a énormément de choses qui se passent dans le cadre, à droite, à gauche, il y a des trucs même en dessous que tu imagines, tu deviens fou. Et ça m'a fait penser à Vénus Noire, parce que Vénus Noire, c'est aussi un film sur la réceptivité du spectateur. C'est très redondant, très répétitif, c'est très épuisant. Et moi, j'adore les films qui me disent, tu sais, t'es intelligent. T'inquiète pas, oui, t'es intelligent. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je vais te donner, même si t'es pas de la même culture que moi, t'es intelligent parce que je vais te trouver un truc qui est en toi qui va faire que tu vas t'intéresser à ce film. Pas forcément que tu vas l'aimer, mais voilà, tu vas t'y intéresser.
C'est exactement
ça. Moi, la porte est ouverte, quoi, j'y vais. Et c'est ça qui m'intéresse
beaucoup plus aujourd'hui, c'est mon rapport des spectateurs au cinéma. Enfin, ce film. Et dans ce sens-là, à ce niveau-là, pardon, il faut le vivre. Il faut vivre cette expérience qui. Enfin, il y a deux extrêmes. Hein. Soit tu rentres dedans, soit tu dis non, je peux pas. Je peux pas, j'ai un truc qui va pas. Mais ça reste quand même très.
Je t'avoue qu'en parlant de Vénus Noire, là, tu me fais peur, en fait. C'est parce que ça a été un vrai supplice pour moi de spectateur Vénus Noire.
Alors, je vous promets que le rendez-vous est pris pour reparler de Vénus Noire. Ouais.
Un podcast spécial.
Ouais, voilà. On l'annonce
à chaque fois. Ça en fait beaucoup le mois prochain. Ouais. Ça en fait. Comme le film et ton salle donc mercredi prochain. Sam, il reste au moins d'une minute. Tu as un conseil à notre auditeur.
C'est un conseil, mais c'est pas. Enfin, c'est un film que j'ai vu. Enfin, j'ai vu sur le tas très tardivement, je veux dire. C'est pas asiatique, ça. C'est un film américain. Et j'ai été extraordinairement surpris par Foxcatcher. J'avais vu ses deux premiers films, Capote, on dit Capote.
Truman Capote.
Ouais. Capote, quoi. Et le deuxième qui est.
Le stratège.
Voilà. Ouais. Qui m'ont jamais paru désagréable. Ou, c'est un peu comme le copain que tu rencontres pendant les vacances d'été, t'es bien et tout, et puis après, bon, tu le quittes parce que bah, tu passes à autre chose. C'est un peu ça, ces deux films-là. Foxcatcher, c'est autre chose. T'as envie de
te retrouver. C'est notre André Manoukian.
C'est un peu ça. T'as envie de retrouver ta copine et tout, comme ça, tu ne pourras pas. Foxcatcher, c'est un film vraiment très, très, très intelligent. Pourquoi vous riez?
Non, mais continue.
Alors, je sais pas. En une minute, je trouvais que c'était vraiment un film très, très, très intelligent. Ça m'a. Comment je pourrais dire ça, cette espèce de classicisme qu'on a dans ce film qui m'a beaucoup plu, alors que c'est un film qui ne travaille pas beaucoup sur, et tant mieux, sur des espèces de sauts comme ça scénaristiques où on s'attend à des espèces de cahiers des charges où il faut absolument qu'il y ait tel moment qu'il fasse monter la tonalité. Non, c'est vraiment pendant plus de 2 heures, je crois, c'est un film qui suit une certaine ligne comme ça, et la fin qu'on devine plus ou moins, elle arrive comme ça, et elle arrive pas d'un. Enfin, que ce soit souple, elle arrive d'une manière très simple, très fluide, et c'est un film qui prend exactement le temps. Enfin, moi j'ai trouvé ça.
Mais le stratège, c'était un peu le même mode.
Mais je trouve qu'il développe, je trouve qu'il est beaucoup plus épanoui dans ce film-là, et voilà. C'est récent, je l'ai vu il y a quelques jours.
Prix de la mise en scène, c'est ça, Cannes?
Okay. Oui.
Et pour le coup, je suis d'accord, la mise en scène.
Alors, si vous voulez un avis absolument inverse sur le film, vous pouvez écouter notre podcast Cannois, où il me semble que j'avais une vision complètement différente du film. Nicolas, si tu veux dire
quelque chose. Là, justement, je voulais rapprocher la réception que j'ai eue de ce film avec la réception que j'ai eue avec le German, parce que c'est exactement. Enfin, c'est pareil et différent à la fois. C'est un film que je trouve brillant. Parce que le metteur en scène est brillant, et on avait déjà prouvé qu'il était brillant avec Capote et Moneyball. Mais là, pour le coup, alors j'ai beaucoup aimé ces deux premiers, là je trouve que il y a un ton dépressif très éprouvant pendant tout le film. C'est gris, quoi. C'est vraiment le gris pur, quoi. Et même si je trouve brillant, même si la façon de mettre en scène le film en minimisant le dialogue au maximum et en faisant vraiment passer énormément de choses par les regards, par l'image, par les silences aussi, par les non-dits, notamment cette scène exceptionnelle où il essaye, où il y a sa mère qui vient à un entraînement et l'observe, et lui il veut en fait, son but c'est que sa mère soit fière de lui, celle qu'il n'a jamais vraiment aimée, ou qu'il a, voilà. Et là il essaye de prouver à sa mère qu'il peut entraîner une équipe de lutteurs, alors qu'elle dénigre ce sport et qu'elle pense que c'est un sous-sport, et lui il veut lui montrer le contraire. Et la façon dont elle l'ignore, c'est bouleversant, ce personnage, pour le personnage. Et à travers ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très violent. Enfin, tu disais que la fin était très fluide, mais la façon dont le drame arrive, c'est percutant quand même. C'est-à-dire que ça m'a limite traumatisé, quoi, la façon dont il arrive, Steve Carell, dans la scène. Et la façon dont ça se passe, il n'y a même pas de retenue, quoi. On fonce dans dedans, quoi. Ça t'éclate la tronche. Et c'est pareil, c'est un film que je pourrais pas revoir, parce que c'est un film c'est pas ce genre de film que j'aime en voir au cinéma, tout en le trouvant brillant. Voilà.
Ça me va. Une attente. Au moins de 30 secondes cette fois.
Et une attente là maintenant. Mais dans plusieurs mois, quoi, c'est sur les mêmes trucs. Par exemple, le dernier film, parce que j'en parle encore récemment, j'attends avec impatience le dernier film d'Arnaud Desplechin. C'est quelque chose, parce qu'en plus de cela, c'est Arnaud Desplechin fait un film sur l'adolescence de Paul Dédalus, le personnage principal de comment il fut disputé ma vie sexuelle, mon film de chevet dans le cinéma français, donc je l'attends avec impatience. Et
puis il y a peut-être une restauration de La Prisonnière du désert qui se prépare.
D'accord, donc ils vont te ok, voilà. On sera pour Sidi, on va te banner.
Voilà, voilà. Sidi, justement, oh, mon Dieu. Ouais. Quel serait ton conseil hors Asie ou asiatique en ce moment?
Mon conseil, alors, c'est un film qui est sorti le 28 janvier de Paul Vécali, Nuit blanche sur la jetée. Adaptation de Dostoïevski, donc voilà, il faut vraiment aimer ce genre de proposition. Un homme et une femme qui, dans une sorte de huis clos à l'extérieur, à ciel ouvert, se rejoignent et se demandent s'ils peuvent s'aimer ou pas. Voilà, je pense qu'il faut le voir vraiment, c'est pas un film qui se raconte vraiment, quoi. Il faut vivre cette expérience qui... Voilà.
Je trouve que c'est un peu dégonflé de la part de Sylvie quand il dit ça, toi qui se raconte pas du tout. Enfin, tu n'as pas vu le film, c'est ça?
Ah, je l'ai pas vu, non.
Au moins, ça tient en une minute.
Voilà.
Vraiment, moi, ça tient.
La vengeance.
Oui. As-tu un film que tu attends particulièrement dans les mois qui arrivent?
Alors, de grandes attentes. Non, je sais que Mission Impossible, dont j'avais parlé au dernier podcast, est avancé. Il devait sortir fin décembre et il sort finalement fin juillet. Certains disent que c'est parce qu'il a peur de Star Wars, enfin il y a plein de choses qui se disent. Mais sinon, c'est un conseil qui n'en est pas un, c'est Birdman, un des moins pires films de Iñárritu, voilà, qui sort bientôt. Là.
C'est joliment dit.
Voilà.
Justin, un conseil ciné.
Oui, alors une ressortie, donc le Pandora de Albert Lewin, donc il était invisible depuis des luches, même en DVD, vu qu'il y avait un. Il y avait un conflit juridique entre éditeurs, donc le DVD était introuvable, était hors de prix, et puis il n'y avait plus de copies qui circulaient, donc là il est ressorti en salle, donc dans une belle copie. Et donc c'est marrant, parce qu'on parlait de Marnie tout à l'heure dans les mariages, le style qui opère pas, donc là c'est complètement l'inverse, donc du coup c'est un mélange du mythe du Hollandais volant, de la boîte de Pandore, ça se passe dans l'Europe des années 30. Donc ambiance un peu génération perdue, Scott Fitzgerald, Hemingway. Et donc ça raconte l'histoire du... Donc, ça revisite le mythe du Hollandais volant, donc qui est James Mason, qui retrouve pour quelques jours, pour 6 mois, le droit de retourner sur Terre, puisque donc se retoucher à la terre ferme, il est condamné à errer pendant des siècles en mer après avoir tué sa femme. Et donc il retrouve donc une femme qui est Ava Gardner, donc qui s'appelle Pandora, et donc qui est la réincarnation de sa femme, qui si elle l'aime, il aura le droit de mourir, si elle l'aime et est prête à mourir pour lui, il pourra avoir le droit de reposer en paix avec elle. Donc il y a un mariage de style, voilà, y a ça, au niveau de l'imagerie, donc voilà, comme j'ai dit, ça mélange les mythes antiques, nordiques, une espèce d'atmosphère onirique en Espagne en plus. Donc l'Espagne, donc c'est des thèmes un peu de gothique anglo-saxon, mais qui se marient avec le côté solaire espagnol. Et puis donc y a, visuellement c'est somptueux.
C'est photo en couleur.
De, en technicolor de Jack Cardiff. Oui. Une photo de Jack Cardiff absolument magnifique. Donc c'est une espèce d'ambiance complètement onirique surtout. Donc Albert Lewin fait une fixation sur Ava Gardner, je pense, avec la comtesse aux pieds nus, ça doit être les deux films où, n'a jamais été aussi belle, donc...
Il n'y a pas que lui qui fait une fixette sur Ava Gardner, je pense.
Ça, c'est le chari sec, ce soir.
Elle est éternelle.
Ouais, exactement. Ah non, elle est morte. Et donc, voilà, donc il y a quand même... Chaque gros plan est assez saisissant. Au fur et à mesure que le film progresse, plus ça avance, plus est entouré d'une dimension vraiment mythologique, onirique, rêvée. Et paradoxalement, plus il y a ce côté-là mythologique qui s'inscrit, plus les personnages deviennent humains, vu qu'il y a un côté un peu, au début, il instaure ce côté mythologique, on ne sait pas trop où on est, et plus les personnages se rapprochent, plus ils deviennent humains, plus justement ce côté, ils s'inscrivent dans le côté mythologique, donc c'est un vrai mariage réussi de style, et donc c'est quand même un ovni, même aujourd'hui ça reste... plutôt un ovni, voilà, entre le mariage, le côté sophistiqué, intellectuel, et puis romanesque. Donc ça reste un grand film.
Et une attente.
Alors, bon, il y en aurait une première attente, je crois, c'est dans pas très longtemps, c'est It Follows, là, de Mitchell, que j'ai pas vu, mais j'ai vu, j'ai découvert son premier film l'année dernière, The Beat of the American Sleepover, donc était un teen movie un teen movie comme on en voit peu, quoi. C'était une espèce de teen movie flottant, vraiment ambiance flottante, sans vraie histoire, mais on accompagne plein d'ados le temps d'une nuit, donc il y a un côté un peu vraiment sur, indéfinissable. On peut pas le situer même temporellement. Ça revisitait un peu pour ceux qui l'ont vu. Le Dazed and Confused là, de Richard Linklater, c'est un peu une espèce de relecture de ce film-là. Et donc là, je suis curieux de voir, dans un vrai argument fantastique, avec la même atmosphère, je suis curieux de voir ce que ça donne.
Quoi. Pour le coup, je vais un peu sauter jusqu'à mon conseil, vu que c'est It Follows, justement, que j'avais sélectionné.
Pareil,
et,
pareil, on va dire.
Bon, il y a trois personnes qui conseillent It Follows, même qui est vraiment sans doute le meilleur film de terreur, d'angoisse depuis... depuis The Descent, au moins que.
Ah oui,
c'est mieux
que ça.
Vraiment.
Mais c'est aussi nul.
Alors,
non, le premier,
mais. Toute la vague de films d'horreur récents, mais qui est effectivement un vrai film terrifiant, un vrai film de mise en scène, et qui arrive avec. Enfin, et être en même temps dans la continuité de The Mist of American Sleepover, un film sur l'adolescence. Tout en passant justement avec des terreurs qui sont beaucoup plus universelles, qui est le fait du caractère irrémédiable de la mort qui arrive et qui est au centre du film et mise en scène comme moi je l'ai justement jamais ressenti au cinéma. Donc c'est vraiment mon conseil.
Surtout qu'elle a un côté très carpentériel quand même, c'est une approche de la mise en scène, l'utilisation du scope, et puis il a quand même une façon de traiter l'adolescence qui est quand même très très particulière, très très neuve. Mais c'est intéressant, c'est il fait partie de cette génération de cinéastes du genre qui ne sont pas les adorateurs du genre, mais qui ont une culture plus classique du cinéma et qui ne sont pas toujours à vouloir répéter ce qu'ils ont vu quand ils étaient gamins.
Mais d'ailleurs, dans les années 2000, les fanboys, ça n'a jamais donné de bons films. Quoi,
bah oui, mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas que les années 2000. Encore aujourd'hui, dans les festivals de films fantastiques, on voit beaucoup de films qui sont tout le temps à répéter sans cesse les mêmes formules.
Les films d'horreur espagnols, en ce moment, c'est
exactement. C'est
ça, et pourtant, il connaît très bien les codes du film de genre. Enfin, on a cité Carpenter, il y a Tourneur aussi qui est...
Oui.
Textuellement dans une scène et ça, finalement ça a peu d'importance.
Oui, mais il cherche pas à reproduire des formules, c'est-à-dire qu'il a compris certains aspects de la mise en scène, notamment de Carpenter, et notamment on pense beaucoup à Halloween dans le sens où il apporte une terreur dans vraiment les suburbs américaines, quoi. Et ses personnages sont vraiment concrets, donc c'est là-dessus on peut facilement s'identifier à eux, plus pour le public aussi, anglo-saxon, mais en tout cas, on les connaît, ces personnages, et tout de suite, on arrive vraiment à s'identifier à leurs peurs, leurs angoisses, leurs aspirations. Et surtout, il faut dire une chose, c'est que c'est un film qui est carrément subversif. C'est, sans vouloir déflorer le sujet, c'est le cas de le dire. La peur tourne autour du sexe. On pense forcément au virus du sida, mais ce n'est pas forcément que ça. La tournure pour en fait s'échapper et un peu de s'encanailler pour survivre. Et c'est une espèce de côté cyclique, en vérité, il faut transmettre la peur pour pouvoir s'en réchapper, rappelle aussi Ring de Takahata. Voilà.
La bande annonce est terrible, en tout cas.
Oui,
et puis, non, mais il y a des séquences. C'est un film moralisateur, pour le coup.
Oui, non, bien sûr.
Alors qu'il y en a qui pensent que c'est un film moralisateur.
C'est un faux film moralisateur, comme l'était Halloween, déjà.
Parce qu'Halloween, voilà, c'est toujours celle qui couche, qui se fait tuer en premier.
Oui, voilà, mais le problème, c'est un film. Plus un inquisiteur, en vérité, sur le.
Non, mais c'est ça, c'est la morale du truc.
C'est oui, vendredi 13. C'est un faux film, Pauline.
C'est pas la morale du film, non. Justement. C'est le point de départ. Ouais. La sexualité rentre là-dedans et rentre dans le fait de la conscience de sa propre mortalité. Mais après, il y a tout un jeu.
Oui, parce que c'est plus complexe. Ouais. Parce que ça.
Et qui,
ça transmet la peur et ça sauve en même temps. Il y a une espèce de paradoxe comme ça où finalement, ça voudrait dire que le sexe vidé de toute substance. Son mauvais jeu de mots n'aurait pas vraiment d'intérêt, c'est-à-dire que le sexe pour le mécanique sans tout ce qu'il y a autour
C'est un peu flippant.
Ça a l'air purement.
Non,
non,
c'est
la
purée qu'on a
dit comme ça.
Non, c'est pas. Non, 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 pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le sexe, juste pour le sexe au sens. Ça fait longtemps que j'ai pas couché avec quelqu'un, vas-y, je vais coucher avec le premier venu comme ça.
C'est un peu sans
il est où le mal, quoi.
Non, mais je t'ai connu.
Je pense que le film a une vision qui est. C'est pas forcément puritain, mais il y a une vision comme quoi il faut pas. Enfin, je sais pas, il faut pas, mais que le sexe dévitalisé a perdu son intérêt. Non, mais c'est pas forcément moi.
Ça fait peur. Je l'ai pas vu comme ça, personnellement.
Non.
Ça paraît
puritain. C'est une distinction entre la jouissance et le plaisir. La jouissance est un.
Non, mais j'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je veux dire.
Le sexe, c'est mal.
Non, ce n'est pas
ça.
On vous conseille quelque chose. Fabien, as-tu un conseil?
Ça ne sera pas un conseil sale, ça sera.
Salace.
Un conseil DVD. Salle obscure, j'entends. J'ai loupé Petit Quinquin moi l'année dernière, du coup j'avais prévu de me prendre le gros coffret qui est sorti fin d'année 2014 du Monde intégral. Mais avant ça, j'ai revu La Vie de Jésus. Et voilà, c'est juste, je le conseille à tous ceux qui l'ont pas vu. Je me souvenais pas du tout de ce traitement-là, de traitement du racisme, comment il parle et comment il filme le racisme. Depuis début janvier, ici, là, les journaux, la télé, Internet, les images qu'on bouffe, la vision de l'autre, que ça soit la chasse aux sorcières, quoi. Moi, j'arrive pas à croire ce que je lis, que ce soit dans les journaux, que ce soit les gens que j'entends, mes collègues. Incroyable. Et du coup, revoir La Vie de Jésus, j'avais le souvenir d'un film de Frix dans le nord de la France qui me rappelait pas mal de ma campagne de Saône-et-Loire. Donc, des jeunes qui s'emmerdent, qui ont des mobilettes et qui sont racistes. Voilà. Et je me rappelais pas à quel point le sujet c'était ça et comment regarder un jeune raciste qui va aller jusqu'à. Bah, je ne vais pas raconter le film, mais jusqu'au pire. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur la démarche de Dumont, qui était prof de philo avant. Et cette idée lui est venue d'un de ses élèves. Il y avait une sorte de rapport affectif avec lui, il l'aimait bien, mais il était raciste, ce gamin. Il l'aimait beaucoup, mais il était raciste. Ça n'a pas empêché qu'il y ait une relation entre eux, maître à élève, et peut-être même plus au niveau de... pas affectif, mais parle-moi, quoi. Essayons de nous comprendre. Et ce film transpire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, je le conseille. Il me manque Adèle Witch, que j'ai pas vu, de Dumont, qui est un peu dur, j'imagine. Excuse-moi.
Non, mais je me souviens très bien, parce que je crois que sur ton compte Facebook, tu avais mis une image, je crois, où on voit. Ça c'est le début du film, La Vie de Jésus, qui m'avait beaucoup marqué avec toi. Je me souviens très très bien. Je crois que c'est 96, 97, je crois.
Ouais, milieu.
J'ai beaucoup marqué ce film. Il y a une séquence où tu as un père et un fils d'origine maghrébine, en tout cas. Et à un moment, le fils, c'est pas dans un café, il entend, il se retrouve confronté à un groupe de jeunes qui l'insultent. Je crois qu'il lui dit ça à l'arabe, un truc comme ça. Ouais. Et le fils a envie de s'énerver. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il retient son fils en lui tenant la main. Je trouve que ce plan est extraordinaire. Ouais. Parce que ce plan, aujourd'hui, il est très important. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus le père qui retient le fils. Et ça donne ce que ça donne. Et c'est un film qui parle énormément au présent. Et je suis d'accord avec toi, ce film, faut peut-être le revoir. Et sur des gens qui se trompent peut-être de colère, comme diraient des proches. Ils ne sont peut-être pas forcément racistes, qui se trompent peut-être de colère.
Mais c'est autre chose. Juste pour la scène continue, c'est le. Une cérémonie, je sais pas quoi, enfin bref, il y a toute la chorale de la ville, voilà, avec les trompettes, voilà, ils passent dans les rues, et après ils boivent un coup au bistrot, donc tout le village est là. Tout le village est là, et du coup, il y a une famille maghrébine, il y en a plusieurs dans la ville, mais là, dans le bar, il y en a qu'une. Et du coup, le groupe de personnages qu'on suit depuis le début, les héros qu'on suit, se foutent de la gueule de la famille derrière, se foutent de leur gueule, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit dans la salle, et que le héros leur dise tout fort « Ferme ta gueule, sale bico ouais. » en rigolant. Et du coup, le père prend la main, il se lève, dans un silence de mort. Et au moment où le père ouvre la porte, il y a un gars à la trompette qui joue la Marseillaise, en fait. Et toute la salle explose, enfin, de rire. La salle, le bar. Et c'est... Mais incroyable. C'est... ça... Et en fait, le... Enfin, je vais arrêter d'en parler. Regardez-le, si vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas ce que vaut Petit Quinquin, ni Adèle Wish, que je n'ai pas vu, mais en tout cas celui-ci, qui est le premier, c'est quelque chose.
C'est un sujet qui est beaucoup revenu hein, dans ces films suivants. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est vrai que même dans Petit Quinquin, il y a un traitement de ça. Et Ed Wish aussi va dans cette direction, mais d'une manière qui peut prêter à la discussion aussi. Enfin, je pense qu'on aura des occasions d'y revenir.
On conseille, je ne sais pas, le Clint Eastwood peut-être. Voilà.
Juste, tu l'as vu ?
Voilà. Non. Bah les attentes, pardon.
Ah, d'accord.
En attente, le Clint Eastwood parce que voilà.
Le Clint Eastwood.
Voilà. Ça suffit.
Ça suffit comme argument.
Jérémy, as-tu un conseil sale ? Peut-être.
Ça sera un conseil petit écran pour le coup. Oui, excuse-moi. De regarder des séries.
Non, mais c'est pas ça. C'est
donc
pas ça
alors, tu vas choisir. Il y aura deux rapidement. D'abord l'un, c'est Man Seeking Woman qui est une comédie américaine qui passe sur la chaîne FX. Donc, c'est avec Jeb Baruchel, un habitué de l'écurie à Pato. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui est en pleine rupture amoureuse et qui cherche à rebondir, en fait. Et donc, y a rien d'original dans le scénar, il n'y a rien d'original, mais c'est tout le traitement qui est un mélange d'absurde et de poésie. Et c'est un peu n'importe quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on regarde là? C'est très imagé, il y a des scènes, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on regarde, mais c'est juste, faut juste le vivre en fait, parce que c'est très original à la télé, on n'a jamais vu ça finalement. Et faut vraiment regarder, ça dure 20 minutes, c'est pas très long, il y a 13 épisodes dans la saison, là on en est au numéro 2. C'est toujours très absurde, très piquant, donc c'est super drôle, voilà.
J'ai pas vu le deuxième, mais ça continue sur la lignée, genre rendez-vous galant avec un troll ou des trucs comme ça.
Non, il y a des. Mais non, mais justement, c'est ce mélange.
Non, mais je crois qu'elle n'aurait absolument rien ce soir.
C'est ce mélange. Non, c'est ce mélange d'absurdité.
C'est pas faux, le Ghibli.
C'est que le truc, il va vraiment. C'est la série va au bout de. Elle va au bout de son idée. La série va au bout de son idée.
La série dans l'idée, elle est géniale. Elle a des idées vraiment géniales.
Non, mais ça image l'imagerie, l'image, les choses du quotidien, d'une façon assez. On l'a jamais vu quoi.
Oui, je suis d'accord, mais. En fait, ce que je m'attendais, on m'a tellement bien vendu, parce que j'avais quand je l'ai vu, on m'avait parlé, c'est pour ça que j'étais le voir, et on m'avait vendu ça comme vraiment un ovni total. C'est un ovni total, sauf que je m'attendais encore à un truc beaucoup plus maîtrisé dans l'écriture, plus drôle encore, plus.
Je
trouve que les scènes s'enchaînent sans vraiment de lien.
Bah c'est fait exprès, mais
le problème, c'est qu'il a l'ambition quand même de raconter l'histoire de ce personnage qui essaie de retrouver. Sauf que il y a un moment où il va y avoir un problème.
Il y a un côté
clairement
où il vient du Saturday Night Live, le bonhomme. Oui. Donc il fait ce qu'il sait faire. Donc il fait des petits sketchs comme ça où il va exposer le malaise le malaise adolescent d'un homme qui vient de se faire larguer et qui essaie de remonter. C'est le côté un peu droupi du mec qui est complètement il fait toujours en train de balader un peu sa déprime quelque part. Et je trouve ça vraiment, c'est entre Louis et entre Louis et des sketchs du SNL quoi. C'est complètement con, complètement absurde, mais en même temps il y a une poésie qui s'en dégage. C'est vraiment, non, j'ai jamais vu ça moi.
Mais
excusez-moi. Et conseil numéro 2, c'est pas du tout le même traitement. C'est Kingdom, c'est une petite série d'une chaîne DirecTV. Et donc c'est un traitement naturaliste, donc c'est pas du tout la même chose. C'est un drame familial sur une famille qui évolue dans le milieu du MMA, le Mixed Martial Art. Donc on voit pas souvent ça à la télé déjà. Et il y a un petit côté Rocky qui rencontre Friday Night Lights, donc qui me touche particulièrement. C'est très brut, c'est filmé de près.
Tu peux répéter le titre ?
Kingdom.
Kingdom. Hein. Très
bien. Donc il y a Franck Grillo qui joue dedans, qui est assez connu. Tu le connais, toi, il joue dans les Marvel. Donc, voilà. Non, il y a Jonas Brothers aussi, d'ailleurs. C'est assez exceptionnel, qui m'a bluffé totalement, le mec.
est-ce que tu as une attente, toi?
Et une attente, bah, j'attends le Sonotion depuis que j'ai vu le trailer.
Et il y en a un deuxième, là.
Love and Peace. Ouais, j'ai vu qu'il sortait.
Swan.
Et voilà, tu vois une tortue géante, tu vois des mecs qui sautent partout avec une musique classique. Bah voilà, t'as envie de le voir, ça a l'air fantastique, comme d'habitude.
Nicolas, quel est ton conseil, hein?
Alors, j'en ai deux. J'ai un film, donc c'est Kingsman Secret Service, service secret en français. Donc de... Non, mais des fois, on sait que les traductions des distributeurs en français, des fois, sont complètement différentes du titre anglais de base. Donc, c'est de Matthew Vaughn, donc celui qui avait fait Kick-Ass, X-Men Le Commencement. Donc voilà, c'est très simple. Si vous avez aimé Kick-Ass, vous avez adoré
Kingsman.
Oui, c'est toujours adapté de. Oui, c'est le comic d'ailleurs qu'ils ont travaillé ensemble. Matthew Vaughn avait déjà participé directement aux comics de Millar, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc c'est exactement dans la même lignée Kick-Ass, peut-être encore plus barré, plus fou. Et en fait, j'en attendais beaucoup, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi what the fuck. C'est-à-dire que ça part complètement dans le... Au début, tu crois que ça va se prendre un peu au sérieux, mais finalement, tu vois qu'il y a toujours un décalage, une exagération qui dénote et qui fait que finalement, non, ça se prend pas du tout au sérieux. Et puis, ça vient confirmer dans le final qui est complètement hallucinant, une espèce de pas tellement une parodie, mais une reprise référentielle presque amoureuse et en même temps hilarante de James Bond à la Moonraker, c'est avec la base du méchant et tout. Mais c'est tellement hilarant et c'est tellement... bien fait, tellement drôle que ça en vient génial. Et puis surtout, le film a des scènes d'action incroyables. Avec toutes les blockbusters, les films d'action américains qu'on se tape chaque année, qui sont tous filmés pareil. Puis les grosses merdes à la Tekken 3 où t'as 4000 plans par seconde pour filmer Liam Neeson qui sort d'une bagnole. Et tu vois un film qui te sort une séquence d'action dans une église. Bon, là c'est dans l'exagération du film, donc en gros, c'est Colin Firth qui désingue une centaine d'extrémistes catholiques tendance Ku Klux Klan dans une église un peu contre sa volonté, mais bon, ça je vais pas trop en parler, mais en gros là vous allez comprendre quand vous allez voir le film, c'est ça que vous allez voir le film, voilà. Et donc la séquence, elle est filmée en deux trois plans séquences avec une nervosité, une furiosité et en même temps une lisibilité que j'ai rarement vu au cinéma, et elle est juste incroyable. Et voilà,
donc, conseil numéro 2.
Mon deuxième conseil, c'est donc
Phoenix. C'était son conseil numéro 2.
Non, ça fait
pas. Ah oui, d'accord.
Mon deuxième conseil, c'est Christian Phoenix de Christian Petzold, celui qui avait fait Barbara, qui est un très beau film. On a eu énormément des films allemands, français et allemands sur les rescapés entre guillemets de la Shoah et d'Auschwitz et des camps de concentration et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur les habitants. Et je trouve que le film démarre un peu comme ça, le film qu'on a un peu tous déjà vu, un peu lourdement mélodramatique avec le retour de l'héroïne qui est complètement défigurée par son séjour dans les camps de concentration et qui est obligée de faire de la chirurgie entre guillemets pour changer de visage. Donc limite de changer d'identité et de revenir dans son espèce de cercle familial, de retrouver et essayer de retrouver son mari en fait. Sauf que son mari pense qu'elle est morte là-bas et quand il la rencontre en fait, il pense que c'est quelqu'un qui lui ressemble mais c'est pas elle. Et donc il va.
C'est un vertigo quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et il va tout faire en fait parce que sa femme a. Sa femme a en fait un espèce d'assurance vie et il va essayer de faire passer sa femme, qu'il pense qu'il n'est pas sa femme, pour la faire ressembler à sa femme. Pour toucher l'assurance vie, comme elle est toujours en vie, enfin tout un truc comme ça. Enfin, je sais plus si elle, voilà, c'est un peu complexe. Et je trouve que le film, à travers ce jeu de rôle, ce jeu de masque, déploie un vrai amour pour le cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas que le pendant mélodramatique, un peu lourd parfois, d'un film sur les rescapés de la Shoah et des trucs comme ça. C'est aussi un vrai jeu, un vrai film sur le cinéma, sur la façon de mettre en scène, sur la façon de filmer, sur la façon de jouer aussi, puisque c'est du faux, c'est du vrai qui se mélange un peu. Et je trouve ça assez... Voilà, le film est un peu long à démarrer, mais une fois qu'on rentre dans ce jeu-là, c'est absolument brillant et même bouleversant dans son final, qui est vraiment le final parfait pour... voilà, donc je conseille.
Et attends, toi.
Et une attente, ouais, c'est un peu toujours les mêmes. C'est la première grosse attente, c'est le Jeff Nichols, mais il sort dans longtemps. Et qui sort bientôt. Bah, le film qui était présenté à Jaramé, là, de Alex Garland, qui s'appelle Ex Machina, qui a apparemment des bons retours, qui a été présenté avant-hier, hier, je crois. C'est vrai. Ex Machina, ouais, la semaine dernière. Non, c'était le 29.
La semaine dernière, pardon.
Et donc, c'est un film donc, d'Alex Garland, qui est à la base un scénariste, qui avait pas mal travaillé avec Boyle, que j'aime bien, que beaucoup détestent, mais qui avait fait les scénarios de Sunshine 28 jours plus tard, notamment à La Plage. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, sa première réalisation, qui est un espèce de huis clos science-fictionnel anticipatoire à l'ancienne, avec trois très grands acteurs, Oscar Isaac, Alicia Vikander, et le troisième, le héros, c'est Donald Gleeson, c'est le fils de Brendan Gleeson.
Voilà. Martin, as-tu une attente outre It Follows que je t'ai piqué?
Une attente, oula, non pas vraiment, je conseille plutôt aux gens d'aller terminer la très belle rétrospective à Cinémathèque sur John Ford, et puis pour les films salles que je conseille, enfin du moins il est encore en salle, j'espère que l'occasion justement de la sortie podcast, on le retrouvera encore dans quelques salles, c'est le dernier film de John Borman, donc réalisateur entre autres de Excalibur, qui signe son deuxième film autobiographique après Open Glory, et qui raconte là une autre période de sa vie, quand il était jeune adulte et qu'il a fait son service militaire, et qui voilà, il apprenait à être un jeune officier pour en partir en Corée, et ça traite du conflit d'une part entre les jeunes appelés qui n'ont absolument rien à faire de ce conflit à l'autre bout du monde et qui voudraient mener leur vie tranquillement, et puis de l'autre les militaires de carrière qui ont fait la Grande Guerre et qui voilà, veulent inculquer leur, le patriotisme et puis bon, tout un tas de valeurs qui ne passeront jamais finalement. Et puis à côté de ça, les premiers amours de Borman quand il était jeune officier. Donc c'est un film qui est vraiment très touchant, avec beaucoup d'humour, et puis c'est un point final absolument merveilleux pour une grande carrière et un grand cinéaste.
Bah, peut-être qu'ils vont en faire d'autres, là, on dirait.
Je pense pas. Il est vraiment âgé. Quand il a présenté son film, la quinzaine des réalisateurs, il me semblait qu'il était assez affaibli. Mais il faut qu'il termine là plutôt qu'il s'acharne comme des gens comme René ou Eastwood à faire des films qui finalement ne sont pas à la hauteur de leur talent.
Bon, on verra pour Eastwood.
Ça sent pas la fin, quoi. Il y a une énergie.
Oui, c'est vrai, il a
pas de talent. Oui, mais c'est vrai, mais justement.
C'est un film testament, quoi. C'est
même pour René. Mais n'entrons pas dans un débat.
Ouais, mais tu t'en quand même, faut regarder.
Martin, est-ce que tu as d'ailleurs une attente, comme tu as donné tes conseils?
Alors, les attentes. La seule bonne annonce qui m'a un peu enthousiasmé, mais j'ai quand même certaines réticences, c'est Mad Max.
Mmh. Ouais, c'est ça, fantastique.
Ouais. L'idée de réticence, parce que j'en ai absolument marre de tous ces films qui sont juste des franchises, qui ne jouent uniquement sur un nom connu. Et puis voilà, Hollywood est devenu super feignant et j'ai pas envie de leur faire plaisir. Et à côté de ça, Jean Miller me tend une perche que j'ai envie d'attraper, quoi. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance. Peut-être le énième Sonotion ou Takashi Miike me feront plaisir. Qui sait ?
Elvire, la conseillère cinéma.
Absolument pas. Je suis désolée, je passe mes semaines à faire des cartons. Donc je ne suis pas allée au cinéma. Et
t'as pas vu le Vecchieri à ma place, non ?
Non, mais j'ai vraiment. Mais là, je suis complètement. En dehors de.
Alors qu'est-ce que tu attends quand tu auras fini tes cartons ?
Quand j'aurai fini mes cartons, mais j'attends les films que vous avez déjà cités, en fait. Donc.
Feignasse, quoi.
Bah, totalement, ouais. Je suis toujours feignasse sur cette question, genre, donc, non, rien, je passe la parole à Julien.
Je sens que ça va couper.
Oui, alors.
Ce serait très salaud, ça.
Au niveau des conseils de visionnage, donc, c'est pas un film en salle ni en DVD, c'est un film que tout le monde peut voir sur YouTube. C'est le dernier court-métrage de Jazz Anker, en fait, qui s'appelle Smoke Journée. C'est un film qu'il a fait pour Greenpeace, pour un petit peu sur le thème de la pollution en Chine. Ça dure une dizaine de minutes, et moi j'ai trouvé que c'était pour une fois un sujet qui s'engageait sur l'environnement. C'est traité d'une manière très bien mise en scène, c'est maîtrisé, on retrouve sa femme en tant qu'actrice. Et moi j'ai beaucoup aimé. Ça dure qu'une dizaine de minutes, donc je peux pas non plus l'analyser de long en large en travail, mais je le conseille à tout le monde. Je pense que tout le monde pourra trouver une certaine pour être sensible et toucher un petit peu à cette thématique qui devrait toucher tout le monde, mais que tout le monde s'en fout. Et le deuxième, c'est une attente, mais qui est sortie au cinéma mercredi dernier et qui ne va pas durer très longtemps, c'est Nord-Sud Déplacé. Alors, c'est un réalisateur français, c'est sur le déplacement en fait, de l'eau que Mao Tse-tung voulait faire entre le Nord et le Sud, au nez à la barbe de tout le peuple chinois. Voilà.
Très très bon ce film.
C'est bien qu'il ne l'ait pas vu encore.
Ouais, il est vraiment très très
bon. Oui, il l'a vu, mais c'est bon.
Il y en a un qui veut manger la parole et
découvrir. C'est bon, ça va.
Je vais repartir.
Je réitère pour ma part ce conseil qu'Kate Fallows, dont on pourra reparler éventuellement le mois prochain. Quant à mon attente, c'est le festival de Goul qui arrive la semaine prochaine. Et donc on parlera
slow clap
lors du prochain